Bonjour à tous, c'est Perrine de Basiologie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherchez-vous, où cette fois-ci nous sortons un peu du domaine de la biologie et partons à la rencontre de Thomas, docteur spécialisé en électronique et en IA, qui va nous raconter un peu son parcours scolaire et ce qui l'a amené à faire un doctorat après une école d'ingénieur, mais aussi son expérience de post-doctorat au Canada où il est actuellement. Alors bonjour Thomas.
Bonjour Perrine.
Alors donc avant de commencer, donc j'espère que tu vas bien dans un premier temps, et donc avant de commencer, je vais te laisser te présenter toi-même.
Ouais, ben, merci, et ouais, ça va super bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. Donc je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans, et donc je suis, comme tu l'as dit, docteur en électronique et en intelligence artificielle, et actuellement donc, je fais mon post-doctorat à Montréal, au Canada.
Ok. Donc avant de parler de ton post-doctorat actuel au Canada, on va revenir sur tes études parce qu'elles sont un peu particulières, notamment pour les personnes qui nous écoutent. Donc comme beaucoup, là on a beaucoup interviewé de personnes qui étaient en biologie, qui ont fait une licence, un master et ensuite un doctorat. Alors que toi, tu as fait une école d'ingénieur. Et du coup, je voulais revenir surtout sur ton parcours avant d'arriver au doctorat et avant d'arriver dans la recherche scientifique. Donc est-ce que tu pourrais d'abord nous en dire un peu plus ?
Ouais, c'est comme tu l'as dit, le parcours classique pour avoir un doctorat, c'est vraiment licence, master à l'université, et puis doctorat. Moi, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier, c'est même avant l'école d'ingénieur, en fait, j'ai fait un BTS, donc un BTS en électrotechnique. Donc, c'est vraiment la partie réseau électrique, moteur industriel, etc. Et après le BTS, je suis parti en classe préparatoire ATS, donc c'est adaptation technicien supérieur. Et en fait, c'est une classe préparatoire qui est spécialisée pour les bac plus 2, donc les DUT ou les BTS. Mmh. Et ça permet de remonter un peu le niveau théorique des étudiants qui étaient un peu en tête de classe en BTS, mais qui n'ont pas forcément un niveau théorique suffisant pour accéder aux écoles d'ingénieurs comme telles. Donc j'ai fait cette classe préparatoire et ensuite j'ai accédé à Polytech Nantes du coup, où là j'ai fait un diplôme d'ingénieur en électronique et technologie du numérique. Donc là c'était très focus, très concentré sur l'électronique avec tout ce qui est électronique analogique, donc ça va être vraiment l'interaction entre les composants, les petits composants électroniques qu'on peut avoir par exemple sur des cartes, et également la partie électronique numérique, où là, il y avait plus de l'aspect de algorithmique, code. Voilà, il y a également des études sur les traitements du signal, les télécommunications également. Donc, c'était assez ouvert sur tout ce qui touchait de près ou de loin l'électronique.
D'accord.
Je sais pas si tu veux, je continue après.
Vas-y, continue si tu as d'autres des questions, mais si tu as d'autres choses à dire en attendant, vas-y.
Et du coup, après l'école d'ingénieur, ce qui m'a amené à faire une thèse, en fait, j'ai débouché après l'école d'ingénieur sur un stage de fin de cycle qui m'a pas trop plu. En termes, alors l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé ou le domaine était en soi assez intéressant, mais juste moi, ça correspondait pas trop à ce que je souhaitais faire, ou au moins après l'école. Et donc, j'ai vraiment cherché un domaine qui m'intéressait énormément. Et je voulais essayer de partir vers l'intelligence artificielle et un peu pour l'analyse d'images médicales. Et j'ai eu la chance de trouver une formation diplômante qui s'appelle PSL IT. Donc, c'est l'Institut de technologie et d'innovation de l'Université Paris Sciences et Lettres. Donc, c'est à Paris.
D'accord. Et donc, pendant ton école d'ingénieur ou après ton école d'ingé?
Après l'école d'ingénieur, ouais, vraiment bien après. Donc c'était vraiment quelque chose. C'était une formation à laquelle j'ai postulé, et puis après il y avait un processus de recrutement et j'ai eu la chance d'être accepté. Et donc ça m'a permis. En fait, c'était une formation qui de base était dédiée au bac plus 5, donc soit des masters ou des écoles d'ingénieurs, quel que soit le domaine. Donc dans ma promotion, il y avait des gens qui avaient fait de l'astrophysique, de la biologie, où il y avait vraiment tout type de domaine. Et c'était fait pour orienter en fait justement les bac plus 5 ou les chercheurs de telle sorte qu'ils soient assez compétents pour faire un transfert technologique, donc de la technologie de recherche vers un produit sur le marché.
Donc je ne connaissais pas du tout.
Ouais, c'était vraiment hyper intéressant. En fait, on a navigué dans énormément de centres de recherche et dans des incubateurs de start-up, donc l'Institut Agoranov, pour ceux qui connaissent à Paris, et également donc dans des centres de recherche, que ce soit à l'Université Dauphine, à l'Institut Pasteur, l'Institut Curie. On est allé dans les hôpitaux pour voir les équipes qui faisaient, par exemple, du séquencement de génome pour l'analyse de l'ADN pour lutter contre le cancer. Enfin, il y a vraiment tout type de recherche, tout type de traitement. Et en fait, dans cette formation-là, j'ai rencontré un chercheur qui est devenu, avec qui j'ai fait un stage et qui est devenu par la suite mon directeur de thèse. En fait.
Voilà. Ok. Non, mais tu vois, je connaissais pas du tout cette formation-là, donc c'est vrai que c'est toujours utile de... Est-ce que ça permet de faire justement un tremplin entre un bac plus 5, un peu, j'allais dire quelconque, mais de manière générale, que ça soit une école d'ingé ou un master, vers la thèse, ou ça peut être aussi... cette formation peut être aussi utile après la thèse ?
Question de temps, après la thèse, c'est-à-dire faire cette formation après la thèse ?
Ouais, c'est ça. Ou est-ce que vraiment c'est plus une formation vue comme un tremplin pour emmener vers la recherche ?
Alors, on peut faire cette formation avant la thèse et pendant la thèse, mais pas après. Ah, par contre, la formation, je crois qu'elle a fermé parce que c'est une formation qui coûtait assez cher à l'université, donc ils ont voulu l'arrêter. Je trouve que c'est très dommage parce qu'en fait, la majorité des gens avec qui j'étais, on a réussi à trouver une thèse grâce à cette formation, en fait, puisque ça nous a permis de rencontrer plein de chercheurs et de découvrir des domaines. Donc je trouve ça dommage.
Oui, ça fait ton réseau aussi là, visiblement tu voyais pas mal de monde, donc ça, tu développes aussi pas mal ton réseau. C'est ce qui manque aussi pendant qu'on est à l'école, quoi.
Ouais, très clairement. Ouais. Et ça permet vraiment de mettre un pied dans la recherche sans, entre guillemets, prendre de risques à s'engager immédiatement pour 3 ans pour un parcours qui peut être un peu compliqué. Donc je sais qu'il y avait des doctorants, par exemple des doctorants de polytechnique qui faisaient la formation avec nous. Et qui, eux, par contre, se concentrent un peu plus sur les aspects financement, création start-up, propriété intellectuelle, donc des choses, des formations qu'on a moins dans la thèse.
Ouais, c'est... Ok. Et donc, pour venir justement à ton projet doctoral, donc qu'est-ce qui t'a emmené ? Donc là, c'est visiblement d'avoir rencontré une personne qui travaille sur un domaine d'études qui t'intéressait. Est-ce que avant cela, quand tu étais encore à Polytech, tu envisageais faire une thèse ? C'était un truc... ou en tout cas, tu envisageais partir en recherche ?
Alors, pas du tout. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Et même pour revenir au niveau du BTS, j'envisageais pas du tout de faire une école d'ingénieur non plus. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé, j'ai envie de dire, au fil de l'eau, c'est-à-dire les opportunités se sont présentées. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je me lance, on verra bien ce que ça donne. Et puis, de fil en aiguille, aujourd'hui, je suis à Montréal, donc c'est quand même...
T'es allé vraiment step by step, t'as fait... Ouais.
Exactement, ouais, comme tu dis, vraiment étape par étape. Après, j'ai aussi tenté dans certaines opportunités qui ne m'ont pas plu, donc là, j'ai un peu... stopper certains parcours parce que je me suis dit ok, ça me correspond pas, donc je vais pas passer mon temps là-dedans, donc je me suis investi dans autre chose. Mais c'était vraiment au fil de l'eau, et vraiment l'aspect qui m'a plu et qui dans la recherche et qui m'a dit ok, après l'école d'ingénieur je vais peut-être faire une thèse. Donc c'était à travers cette formation là PSLIT que j'ai fait entre la thèse et l'école d'ingénieur. Le fait de découvrir la recherche, découvrir vraiment, prendre le temps en fait dans quelques mois d'évoluer dans un laboratoire de recherche, d'évoluer dans un domaine de recherche, comprendre un peu ce que c'est la recherche, comment il faut travailler dans un laboratoire, comment il faut amener les solutions, construire les solutions qu'on veut apporter. C'est quelque chose qui m'a plu. En plus, le domaine, donc j'ai fait un stage vraiment sur l'électronique avec de l'intelligence artificielle embarquée dans l'électronique. Et j'ai aussi senti qu'en fait, ça allait être une problématique de société très forte dans les années à venir. C'est déjà, je pense, le cas dans certaines industries. Donc, j'ai voulu aussi m'investir là-dedans pour ensuite, plus tard, être un acteur important dans ce domaine-là.
Oui, parce que là, on parle en ce moment, on parle beaucoup d'IA, mais pour revenir, c'était il y a 4 ans en arrière. L'IA n'était pas encore... Elle était déjà présente, mais pas autant que maintenant. C'est vrai qu'ici, maintenant, l'IA, on en entend énormément parler, mais il y a 4 ans... C'était encore nouveau, je trouve. Enfin, en tout cas, de mon point de vue.
Ouais, c'est vrai qu'il y a 4 ans... Alors, dans l'IA, on entendait énormément parler dans la recherche, du coup. Et particulièrement, on entendait beaucoup parler d'intelligence artificielle, mais qui s'exécutait, on va dire, sur des gros serveurs de calcul. des super calculateurs, et donc on avait voilà, des intelligences artificielles. Je pense une intelligence artificielle très connue, celle qui a battu au jeu de Go le champion du monde. Mais voilà, c'était un algorithme qui s'exécutait sur des énormes serveurs. Et au fur et à mesure, en fait, il y a eu un décalage, pas forcément un décalage, plus une exploration d'une nouvelle problématique qui était comment faire, en fait, pour essayer d'implémenter ces gros algorithmes qui sont très puissants, mais qui ont besoin de beaucoup de ressources, comment faire pour les implémenter dans des tout petits systèmes électroniques, en fait. Et du coup, cette problématique-là est très récente pour le coup. C'est encore plus récent que l'IA que tout le monde a connu avant dans la recherche et que tout le monde connaît aujourd'hui avec la ChatGPT qui a vraiment pour le coup démocratisé ça au grand public. Donc tout le monde aujourd'hui peut utiliser ça
Effectivement.
alors qu'il y a un an de ça, ce n'était pas vraiment le cas.
Et est-ce que, alors du coup, ça me, j'allais rebondir justement sur ton sujet thèse, qu'on n'avait pas encore, enfin là sur ton sujet d'études à ce moment-là, parce qu'on n'a pas encore vraiment détaillé ce que tu faisais, et je pense que ça peut être flou aussi pour beaucoup. Ça l'est toujours un peu pour moi, alors je dois avouer, parce que moi je suis venue à ta soutenance de thèse, j'avais compris un petit peu, mais tu vois, c'est encore quelque chose que c'est pas du tout mon domaine d'études, quoi. C'est vraiment pas quelque chose à laquelle je serais à l'aise d'expliquer, donc c'est toujours sympa aussi d'en reparler. Et est-ce que, donc j'ai déjà une première question pour après parler de ton sujet de thèse, c'est est-ce qu'il existe un peu deux types, enfin différents types d'IA? Parce que c'est vrai, quand on voit IA, on pense par exemple à ChatGPT, on va dire la plupart des gens pensent à ChatGPT, ou pensent à une IA qui dans un robot. Mais est-ce qu'il existe différents types d'IA et avec différents niveaux d'IA? Ou je sais pas si c'est vraiment une question très claire dans ton domaine. C'est peut-être une question un peu naïve.
Je vois la direction de la question. J'espère que la réponse que je vais apporter sera cohérente, en tout cas. Il faut savoir que aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une famille d'algorithmes. Et dans cette famille d'algorithmes, il y a plein d'algorithmes différents qui ont des objectifs différents. Et donc, on trouve, par exemple, dans l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc, en anglais, c'est le machine learning, qui est donc une sous-famille d'IA. Et dans cette sous-famille, le machine learning, il y a différentes familles d'algorithmes encore, et dont une famille qui s'appelle l'apprentissage profond. Et l'apprentissage profond, c'est ce qui va comporter, dans cette sous-famille, on va retrouver les réseaux de neurones artificiels, qui, eux, donc, sont utilisés, par exemple, pour faire ce que l'on va appeler de la vision par ordinateur. Donc il y a un type d'algorithme qui s'appelle des réseaux de neurones convolutionnels qui sont particulièrement bien adaptés à faire de la vision par ordinateur. Donc ce que j'appelle la vision par ordinateur, c'est capturer une image avec une caméra et ensuite un algorithme va analyser cette image. Donc un exemple très simple, c'est tu as l'image d'un chien et d'un chat et l'algorithme va dire si c'est un chien ou un chat, par exemple. Ce type d'algorithmes sont également utilisés pour faire du traitement du langage naturel, donc de la traduction automatique, par exemple. Google Traduction ou DeepL, il y a des algorithmes d'apprentissage profond derrière. Et ensuite, on peut retrouver aussi d'autres types d'algorithmes qui sont par exemple plus adaptés pour analyser des données qui ont une notion temporelle dans le comportement de la donnée. Puis, il y a des pour sortir ensuite de la famille d'apprentissage profond et revenir sur la famille au-dessus qui est le machine learning, donc on peut retrouver des algorithmes un peu plus statistiques, on va dire. Du type support vecteur machine qui a été très utilisé avant 2012, donc avant l'avènement des réseaux de neurones profonds. Il y a également les processus gaussiens avec de l'optimisation bayésienne que j'utilise actuellement dans mon post-doctorat qui font aussi partie de la famille de machine learning. Donc c'est oui, il y a plein de sous-familles et chaque algorithme a vraiment des spécificités et chaque algorithme est utilisé pour répondre à une problématique bien particulière en fait. Je sais pas si ça répond à ta question, grosso modo.
Si, bah, c'est vrai que je vois un peu mieux, ça me fait toujours des petits rappels aussi, mais c'était un peu ce que j'avais en tête. Enfin, effectivement, moi je savais que c'était surtout à base d'algorithmes, mais je suis pas sûre que ça, en tout cas, ça parle à tout le monde et que c'était pas forcément clair pour tout le monde. Donc je pense que c'est toujours important aussi
Oui.
de. Comme tu l'as dit, des fois, il y a des algorithmes un peu plus basiques, classiques, juste par exemple, comme tu dis, de différencier un chien et un chat, et qu'en fait, qu'on utilise tous les jours depuis déjà quelques années, sans s'en rendre compte. Et sauf que là, maintenant, l'IA, on pense surtout à ChatGPT ou à une IA dans un robot et beaucoup plus complexe, quoi. Alors qu'en fait, voilà, c'était important, en tout cas, de le mentionner, en tout cas.
Oui, c'est vrai que l'aspect IA dans un robot, c'est vrai qu'on parle d'intelligence artificielle, on va très vite s'imaginer Terminator avec un robot qui sait tout
Oui, c'est
faire.
ça.
Donc, c'est vrai qu'il y a un peu de recherche on va dire, certaines équipes ont quelques pistes pour implémenter de l'intelligence artificielle dans des robots, mais le robot va ensuite exécuter une tâche bien spécifique. Aujourd'hui, à ma connaissance, alors après je peux me tromper, mais à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait un robot ou un algorithme qui soit capable de tout exécuter, de tout faire, je sais pas, faire la cuisine et puis ensuite d'aller tondre sa pelouse et ensuite de rédiger une rédaction sur Voltaire. Enfin, je sais pas, voilà, il n'y a pas d'algorithme
Est-ce
qui
que...
est aussi général en fait.
Ouais, je vois. Parce que tu parles de ça, ça me fait penser par exemple à un robot aspirateur qui fait ça tout seul. C'est une IA qui est à l'intérieur. Ou pas du tout.
Je pense pas, non. Pour le coup, ça doit être
Ok,
vraiment
bon, bah rien à voir.
une suite de capteurs sur le robot par rapport à l'environnement de la maison.
Ok.
Je pense pas
Et
qu'il y
du
ait une
coup, bon,
IA
bref.
parfaite.
Ok, bon, bah, je ferme la parenthèse. Et du coup, pour revenir à ton sujet doctoral, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Et après, parce que je pense que ça aussi rebondira sur ton sujet actuel, aussi sur ce que tu fais actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît?
Ouais, pour donner un petit peu de contexte à mon sujet de thèse. Donc, en gros, j'ai fait de la recherche pour intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle dans des systèmes électroniques. Et cette
Ok.
problématique, en fait, elle est venue d'un stage que j'ai effectué donc à Sorbonne Université au Lipsis à Paris, donc sur le campus Jussieu. Donc, j'ai effectué ce stage comment dire. Ce stage était d'étudier l'implémentation de réseaux neurales convolutionnels, donc un type d'algorithme d'apprentissage profond, au sein d'une capsule vidéo endoscopique. Donc une capsule vidéo endoscopique, en fait, c'est une petite capsule comme une gélule qu'un patient va avaler, et ensuite la gélule va filmer l'œsophage, l'intestin, le côlon du patient, pour venir détecter des traces de cancer, et particulièrement le cancer colorectal, qui se manifeste avec des polypes. On va dire ça simplement. Et donc, le stage portait sur est-ce possible d'implémenter une intelligence artificielle suffisamment puissante pour reconnaître automatiquement les polypes grâce à des images prises par la capsule, et ensuite juste identifier uniquement quelques images sensibles qu'on envoie au gastro-entérologue par la suite. Une fois que j'étais dans ce stage, que j'ai fait cette étude, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte problématique du coup d'intégrer l'IA dans des systèmes électroniques contraints. Ce que j'entends par système électronique contraint, c'est vraiment un tout petit système sur lequel on n'a pas beaucoup de puissance de calcul, puisque on ne peut pas faire avaler à un patient un serveur de calcul, ce n'est pas possible. Donc il faut que la puce électronique soit suffisamment à la fois petite pour que le patient puisse l'avaler et puissante pour exécuter l'algorithme. Il y avait également des problématiques d'espace mémoire, donc stocker en fait l'algorithme, et aussi des problématiques de consommation d'énergie, là où on n'a pas envie de vider la batterie de la capsule, parce que s'il n'y a plus de batterie au bout de 5 minutes, en fait, on ne pourra pas analyser tout l'intestin du patient. Et donc de cette problématique-là, on s'est dit, bon, ben, il y a vraiment quelque chose à chercher, quelque chose à aller voir. On s'est rendu compte que c'était quelque chose dans l'état de l'art qui commençait un peu à émerger. Et on s'est dit, voilà, il va y avoir une grosse problématique là-dessus, pourquoi pas faire un sujet de thèse dessus. Et donc mon sujet de thèse s'appelle le ZipCNN, et donc c'était une méthodologie d'exploration de l'espace des solutions pour intégrer l'intelligence artificielle dans des systèmes électroniques très contraints. Donc pour résumer en quelques mots, c'est vraiment tu as un système embarqué avec un budget, donc un budget de puissance de calcul, un budget de consommation énergétique et d'espace mémoire, et tu aimerais par exemple, je sais pas, implémenter un algorithme d'IA sur un drone pour analyser des champs agricoles. Donc ton drone, il a un certain budget, et moi je te dis, ben, très bien, pour implémenter l'IA dont tu as besoin, il faudrait que tu passes par telle étape algorithmique, que tu l'implémentes de telle manière, que tu l'exécutes tant de temps, à telle fréquence de fonctionnement, etc.
Ok. Et
Je sais pas si c'est
donc,
clair.
oui, si, bah, si, en vrai, c'est, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça clair. Et Je trouve ça intéressant parce que du coup, ton sujet d'étude est vachement lié avec la médecine. Enfin, en tout cas, c'est à objectif médical. Et sauf que toi, en tout cas, dans ton quotidien, c'est très différent de ce que moi ou en tout cas ce qu'en biologie on pourrait faire. Et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant d'en discuter. Autre du fait qu'on pourrait parler d'IA, mais c'était surtout de voir un peu ce que tu faisais au quotidien. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai interviewé des personnes qui sont sur la paillasse, qui sont au laboratoire, qui font des expériences. Mais toi, c'était pas vraiment le cas. En tout cas, tes expériences, en tout cas, n'étaient pas du tout les mêmes. Et en tout cas, même les réseaux, voilà, c'est pas du tout... Ton quotidien n'était pas du tout le même. Même si on a fait tous les deux une thèse, on n'avait pas forcément les mêmes journées. Et du coup, je voulais revenir justement sur tout ça pour étudier tout cela. C'était quoi tes journées? T'étais beaucoup derrière l'ordinateur? Tu travaillais tout seul? T'étais en équipe? Voilà, comment ça se passait à peu près?
Alors, aussi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire avant de répondre à ta question... Ouais. J'ai fait d'abord le stage sur la capsule vidéo endoscopique, où là, c'était vraiment lié au médical directement. Et ensuite, ce stage-là a amené le sujet de thèse sur une problématique plus globale d'intégrer l'IA dans le système électronique, que ce soit des systèmes électroniques médicaux ou non. On pourra en parler après. Dans mon postdoc, je suis revenu aussi sur l'aspect médical. Donc
C'est pour ça que là j'étais restée fixée sur le côté médical, mais effectivement ton sujet de thèse était beaucoup plus large que ça, excuse-moi.
Et là, durant les journées au laboratoire, c'est vrai que c'est pas du tout le cliché de la blouse blanche derrière la paillasse et les pilules un peu partout et le microscope. Au laboratoire Ellipsis, donc c'est le laboratoire d'informatique de Sorbonne Université, on peut retrouver dans ce type de laboratoire beaucoup d'ordinateurs, ça je vais pas te le cacher, beaucoup d'ordinateurs, des serveurs de calcul aussi très puissants pour exécuter des gros algorithmes et juste étudier ce type d'algorithme. On peut retrouver également, il y avait de l'informatique quantique, donc ça va être des aspects avec des lasers, de l'optique, ce genre de choses très très précises également. Mais moi, dans mon quotidien, c'était vraiment un bureau, un ordinateur et du matériel électronique et du code, beaucoup de code, beaucoup, beaucoup de code pour le coup. Et après, j'ai travaillé aussi sur des cartes électroniques. Donc, c'était vraiment, si par exemple, on ouvre un ordinateur ou un téléphone portable, en fait, il y a des cartes électroniques dedans. Et moi, je venais travailler sur ce type de carte, on va dire. Et j'avais des étapes de mesure comme... j'imagine, en biologie, vous pouvez avoir, je ne sais pas trop, je dois avouer, je ne suis pas expert en
laboratoire de biologie. Mais... sous d'autres formats, mais effectivement, bien sûr.
Mais ouais, il y a vraiment des étapes de mesure où là, j'utilisais du matériel électronique, donc des sondes de mesure pour venir mesurer certaines métriques sur les cartes électroniques que j'utilisais. Et donc, l'idée, c'était vraiment de faire du code que j'ai implémenté ensuite dans la carte électronique et d'étudier, en fait, l'impact du code sur la carte, en fait. Donc, je fais des mesures de consommation, je faisais des mesures de temps d'exécution, d'espace mémoire, et donc, je travaillais beaucoup sur des logiciels qui me permettaient de faire ça. C'était...
Comment tu mets... Ça va être vraiment une question très... très naïve d'une biologiste. Comment tu mets ton code sur ta carte électronique? Enfin, comment, j'ai du mal à voir à partir du moment où tu as ton code sur l'ordinateur, là, avec toutes tes lettres et tes chiffres et tes virgules, et à partir du moment où ça arrive physiquement sur une carte électronique.
Ouais, alors, il y a peut-être, je vais peut-être mettre deux éléments de réponse pour cette question. Premièrement, quand tu dis qu'il y a du code avec des lettres, des virgules, etc.
Venant d'une personne qui n'a jamais codé, hein, c'est pour ça que...
Oui, je comprends bien, c'est pour ça que je vais essayer de vulgariser cet aspect-là. En fait, c'est pas du tout ces lignes de code qu'on implémente. En fait, les lignes avec des virgules, des lettres, c'est pour que nous, humains, on puisse communiquer avec la machine. En fait, la machine, elle comprend que des 0 et des 1, en fait, globalement. Donc, c'est un bit, un 0 ou un 1. Donc, soit c'est à l'état haut, soit c'est à l'état bas, on va dire. Et en fait, ce qu'on va implémenter, c'est un peu donc une traduction des lettres et des virgules qui sont compréhensibles pour nous les humains. On va faire une traduction vers un langage informatique qui est compréhensible par l'ordinateur et la carte électronique. Et ensuite, cette traduction-là, en fait, il y a des protocoles de communication entre la carte et l'ordinateur qui nous permettent de transférer toutes ces données. Donc ben là, tout simplement, on prend la carte électronique et on la branche avec un câble à l'ordinateur. Et ensuite, ce code, cet algorithme-là, en fait, est implémenté dans l'espace mémoire de la carte électronique. Et ensuite, ben, là, il y a des protocoles qui viennent lire l'espace mémoire de la carte en disant, bon, ben, très bien, l'humain, il m'a codé ça, donc je vais exécuter ce qu'il a dit, et puis ben, en fonction de si on a dit les choses correctement ou pas, la carte fait ce qu'on attend ou pas. Ça, c'est la grosse problématique de faire quelque chose correctement.
Ok, ben je vois déjà un peu mieux. Et du coup, au niveau de, donc, pour revenir là sur ta thèse, au niveau de ton quotidien, donc là, tu étais beaucoup derrière l'ordi, tu faisais tout ça. Au niveau de tes horaires, c'était plus là, on va dire plus d'un point de vue technique. Si une personne là nous écoute et en école d'ingé commence à être intéressée à tout ça, ça se passait comment déjà, voilà, au niveau de tes horaires, ta thèse a duré combien de temps et de manière générale?
Donc, ma thèse a duré officiellement 3 ans et demi. Donc oui, il faut savoir que les thèses en France, c'est 3 ans. Donc on obtient un financement qui assure notre salaire durant 3 ans. Moi, j'ai eu 3 mois supplémentaires parce que j'ai fait ma thèse durant le Covid. Donc il y a eu des procédures administratives à faire au tout début du premier confinement pour essayer d'avoir un financement supplémentaire que j'ai obtenu. Donc ça m'a beaucoup aidé puisque c'est vrai que le Covid a un peu chamboulé enfin, l'organisation des projets de recherche. Je pense que tous les thésards, et toi Perrine, tu en es bien
Oui,
conscient.
moi, ma fac, mon école doctorale ne prolongeait malheureusement pas. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu cette chance, mais oui, il y a beaucoup de personnes qui ont eu la chance d'être prolongées de quelques mois. Effectivement, ça nous a, bah, comme beaucoup, hein, on a tous été impactés de près ou de loin.
Et donc là, du coup, j'ai eu 3 ans et 3 mois, et puis en plus, les 3 derniers mois supplémentaires, c'était un peu lié à l'aspect organisation et calendrier de mon jury, plus qui a fait qu'on a dû décaler un petit peu plus, vu qu'il restait des financements sur l'enveloppe, on va dire, doctorale, j'ai pu être prolongé. Donc, ce qui m'a permis de bien peaufiner la fin du doctorat, de faire quelques publications supplémentaires. Après, donc, au niveau de mon quotidien, j'ai envie de dire que ça dépend beaucoup de l'équipe de recherche dans laquelle l'étudiant évolue. Il peut y avoir pas forcément des horaires imposés, mais un rythme différent d'une équipe à l'autre. Moi personnellement, alors sur des journées, des périodes classiques de doctorant, donc on travaille quand même pas mal, je faisais plus du 8-9 heures jusqu'à 18-19 heures. Après, il y a eu des périodes pendant plusieurs mois, c'était plus du 8h-8h, donc 8h-20h. Mais là, c'était voilà, parce qu'il y avait des dates limites qui arrivaient, donc il fallait absolument produire certains résultats ou publications. Et après, au niveau du quotidien, c'était, comme je disais, un laboratoire d'informatique, donc j'étais dans un petit open space avec d'autres doctorants. Donc on pouvait échanger sur notre vie de doctorant, échanger sur des problématiques techniques également. Donc on est à la fois tout seul sur notre sujet de thèse et à la fois pas tout le temps, dans le sens où il y a vraiment que nous qui pouvons comprendre, enfin que nous, on va dire que le doctorant qui peut comprendre en profondeur son sujet de thèse avec son équipe d'encadrants éventuellement. Mais après, il y a par exemple des problématiques de code, des problématiques d'outils, donc comment utiliser certains logiciels, etc., où il peut y avoir des collègues en fait qui ont été confrontés à cette problématique l'an dernier. Et donc, ils peuvent nous expliquer, ils peuvent nous aider. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive. Donc, il y a un peu un côté travail d'équipe et un côté aussi travail un peu solitaire. Et après, outre l'aspect recherche, il y avait aussi une partie assez importante et pour le coup, j'ai très apprécié d'encadrement d'étudiants. Donc, j'avais encadré 6 ou 7 stagiaires durant ma thèse. Donc, ça, c'était quand même un aspect intéressant puisque il y a vraiment une interaction en fait avec un étudiant avec lequel on travaillait et c'était on voyait en fait le projet sur lequel l'étudiant travaillait avancer. Donc c'était assez plaisant, j'ai beaucoup apprécié cette partie-là. Donc ça demande du
Ça,
temps,
c'était
alors
donc
il y a un
c'était
petit
un,
peu.
ça restait un choix. Excuse-moi, ça restait un choix personnel ou on te les avait imposés? Alors là, toi, c'était quelque chose quand même que tu voulais, mais je pose la question parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des stagiaires qui travaillent sur des mini-projets annexes. Est-ce que toi, c'était vraiment un choix que tu voulais ou on te l'a imposé?
On ne me l'a pas imposé directement. Alors, il me semble, alors ça c'est à vérifier, hein, mais il me semble que quand on a des financements publics, qu'on se doit d'encadrer certains stagiaires. C'est stipulé dans les contrats, mais ça reste à vérifier.
Ouais, est-ce que ça doit peut-être dépendre des écoles d'oc?
Je pense que ça dépend des financements. C'est un peu ça, ça reste à vérifier. Et en fait, il y a l'aspect sur la partie administrative, c'était pas mon nom, parce que moi, je pouvais pas encadrer de stagiaire au niveau administratif. Donc, le référent administratif était l'un de mes encadrants. Par contre, au jour le jour, c'était vraiment au quotidien.
C'était toi.
Plus moi qui encadrais sur les problématiques techniques du stagiaire. Donc ouais, ça c'est pas imposé, c'est quelque chose qui peut être très positif ou qui est peut-être ça peut être coupleux le fait de dire c'est négatif, mais en fait ça peut être vraiment.
Non, je pense que oui, il doit y avoir des gens qui n'aiment pas forcément, mais de toute façon quand on travaille en recherche, on travaille en équipe, de toute façon on est quand même amené à travailler avec des gens, mais c'est aussi intéressant de voir qu'en fait t'étais pas non plus pendant 3 ans derrière ton ordi ton projet sans travailler avec personne d'autre. Voilà, tu étais toujours des gens, tu encadrais aussi.
Tout à fait. J'étais, donc il y avait cet aspect-là de stagiaire. Et ensuite, j'ai aussi eu des enseignements. Donc ça, j'ai enseigné à la faculté à Sorbonne, donc à des niveaux de licence 3 et licence 2. Une partie qui m'a permis de découvrir ce que c'était que l'enseignement et de déterminer si le travail d'enseignant-chercheur à la fac était quelque chose que je souhaitais faire plus tard ou pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous dire? Pour rebondir sur la partie travailler en équipe, j'ai également eu l'opportunité, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu aussi, c'est de travailler avec un postdoctorant. Donc il est venu faire un an de postdoc dans notre labo et son sujet de recherche était il était très complémentaire du mien, donc on a fait une petite étude ensemble. Ça c'était aussi agréable un peu d'aller explorer des aspects scientifiques et technologiques que j'aurais pas forcément exploré moi-même grâce en fait à l'arrivée de quelqu'un d'autre avec qui j'ai travaillé en équipe. Ça c'était aussi agréable. Je sais pas si t'as d'autres questions
Non, du tout. Donc t'as vachement de relationnel effectivement autour de toi pendant ton doctorat. Donc c'est toujours un peu ce qui ressort pendant tous les interviews de personnes qui ont fait un doctorat. Mais c'est aussi intéressant de montrer que dans n'importe quel domaine, et même si t'es dans un domaine où t'es, on va dire, seul derrière ton ordi, t'as toujours quand même du relationnel, quoi. Et moi je me demandais toi t'as voulu faire ça par rapport à une école d'ingénieur, quels sont les plus et quels sont les débouchés? Donc, parce que souvent, alors moi je pose cette question parce que nous, en tout cas en biologie, souvent après un master, il n'y a pas énormément de débouchés. Parce que souvent on va à un master de recherche pour partir dans la recherche. Mais toi, après une école d'ingé, en fait tu peux travailler quoi et tu peux très bien gagner ta vie après en sortie d'école. Donc, qu'est-ce qui t'a fait le choix, hormis le fait que tu as trouvé un sujet qui te plaisait? À quel moment tu t'es dit, qu'est-ce qui t'a plu et quels sont les débouchés qui t'ont amené?
Pour rebondir sur juste avant, après je répondrai à cette question-là, mais j'aimerais aussi ajouter que ce qui m'a plu dans la thèse, c'est le fait d'être vraiment multitâche tout le temps, et c'est des tâches très variées. C'est-à-dire que dans la journée, je pouvais passer 2 heures de ma matinée à aller faire de l'enseignement. Ensuite, j'avais une réunion de suivi de mes travaux de recherche et de suivi des travaux de recherche des stagiaires. Ensuite, je passais un petit peu de temps à écrire du code et je finissais par préparer une publication où là c'était vraiment un travail de rédaction scientifique. Et donc cet aspect-là, multitâche, de tâches très différentes, la nature de tâches est assez différente. On pouvait passer dans la même journée de l'enseignement à la rédaction scientifique, donc des publications scientifiques à écrire, à ensuite développer un algorithme et passer à une réunion de suivi de travaux. Donc c'était des tâches assez variées et ça c'était quelque chose qui est très plaisant et qui fait partie du quotidien dans un laboratoire de recherche. La possibilité c'est aussi de participer à des conférences et des échanges avec d'autres scientifiques du laboratoire. Ça c'est quelque chose de très plaisant et d'assez varié du coup. Pour du coup revenir sur ta question par rapport à l'école d'ingénieur, ce que la thèse apporte par rapport à une école d'ingénieur, ça serait Enfin, je vois pas de limite au travail. C'est une question pas facile, j'avoue. Je pense, ouais, déjà, l'un des aspects importants dans la thèse, c'est un peu la passion du sujet de recherche. Donc, j'ai pu travailler, et je travaille encore aujourd'hui sur des sujets de recherche auxquels je n'aurais pas eu accès ou très difficilement si je m'étais arrêté après mon école d'ingénieur.
Okay.
Ou alors, j'aurais eu besoin de peut-être plusieurs années d'expérience en tant qu'ingénieur et vraiment travailler dans un domaine très spécifique pour accéder à des postes qui m'auraient permis de travailler sur ces domaines-là. Ensuite, il y a un aspect où là, c'est plus par rapport aux échanges que j'ai donc avec mes anciens collègues d'école qui, eux, travaillent en tant qu'ingénieurs depuis maintenant 4 ou 5 années, où parfois, en fait, on passe plus de projet à projet en utilisant les mêmes outils, les mêmes technologies, alors que le fait de faire une thèse et de travailler en suivant dans la recherche, ça permet vraiment, outre de passer de projet en projet également, mais vraiment de pouvoir changer de technologie, en fait, d'essayer de repousser certains aspects de la technologie actuelle. Ça, c'est aussi quelque chose qui est plaisant. Il y a un aspect évolution, peut-être, qui est plus long terme que ce qu'on peut avoir en sortie d'école d'ingénieur. Il y a aussi une évolution en école d'ingénieur, et ça dépend de chacun. Tout le monde peut s'investir énormément pour développer des compétences très larges. Mais je trouve que sur la partie recherche, c'est peut-être plus accentué. Et ensuite, un point aussi intéressant, ça fait un peu écho à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'aspect multitâche. Alors, je pense que certains ingénieurs ont aussi cet aspect-là, mais on peut vraiment passer dans la recherche à un aspect... par exemple, actuellement, je suis en train de rédiger des projets de recherche pour demander des financements, et c'est un exercice qui est complètement différent que de développer un algorithme basé sur certaines mathématiques. Donc voilà, ça peut être vraiment des tâches aussi très variées, et ça, c'est assez plaisant. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr, mais ça reste à confirmer, je ne suis pas sûr que tous les postes d'ingénieurs ont cette nature-là.
Ouais, donc non, mais c'est vrai que du coup, je me t'ai posé la question en préparant un peu l'interview. Donc moi, je savais déjà que t'avais pourquoi t'avais décidé de faire une thèse, que voilà, t'avais trouvé un peu ce projet de recherche aussi intéressant. Mais je me demandais du coup si à la fin tu en voyais quand même des avantages d'avoir fait une thèse et d'être parti un peu dans ce domaine-là par rapport à un métier d'ingénieur, parce qu'il faut pas se cacher, en tant qu'ingénieur, on trouve aussi, enfin en tout cas, vous pouvez trouver des postes plus facilement qu'en tant que recherche, où on a beaucoup de CDI, il y a aussi quand même la précarité, la précarité de l'emploi. C'est plus compliqué de trouver des postes fixes. Donc je me demandais si, en tout cas, il y avait aussi un avantage de ce côté-là. Enfin, en tout cas, toi, tu en ressortais quelque chose de positif. Enfin, je m'en doutais que oui, sinon tu n'aurais pas non plus continué là-dedans. Mais...
Ouais, mais c'est vrai que, mais surtout en sortie d'école d'ingénieur en électronique. En effet, on peut avoir des postes dans l'industrie qui sont très intéressants. Donc, ouais, les aspects que j'ai donnés, c'était vraiment sur les tâches un peu du quotidien, les tâches professionnelles. Après, ouais, j'aimerais ajouter que ça, faire une thèse, ça aussi développer des aspects personnels que je pense que j'aurais eu du mal, ou peut-être que j'aurais pas du tout développé, malgré l'expérience en industrie suite au diplôme d'ingénieur. On est parfois livré à nous-mêmes et du coup, on va développer des compétences dont on n'aurait pas soupçonné l'existence, je pense.
Oui, c'est vrai.
Sur la gestion de plein de choses, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Pour le coup, je regrette absolument pas d'avoir fait une thèse pour ça. Voilà. Après, pour nuancer un petit peu les propos et pas juste donner que les merveilleux aspects de la thèse, parce qu'il y en a des très positifs. C'est vrai que dans l'aspect intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut avoir des très bons postes sur des sujets très intéressants et avec des salaires tout à fait intéressants également en sortie d'école d'ingénieur. Puisqu'en fait, il y a un besoin assez fort dans l'industrie sur ces domaines-là, que ce soit l'électronique ou l'intelligence artificielle. Donc, on peut également trouver des choses très intéressantes à faire dans l'industrie.
Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça, parce que c'est vrai que là, je parlais surtout dans ton domaine, parce que c'est vrai que nous, dans le domaine de la biologie, il y a des postes, bien sûr, d'ingé en sortie de master, mais peut-être pas autant que dans ton domaine. Et effectivement, dans ton domaine, je pense que les gens peuvent trouver de très bons postes avec aussi de très bons salaires sans avoir besoin de faire une thèse. Donc je m'étais dit, bah, faut quand même en ressortir quelque chose. Il doit bien avoir aussi des côtés positifs. Si on se dit, tiens, je me lance dans une thèse, qu'il faut pas se le cacher non plus, c'est pas non plus une thèse n'est pas non plus super bien payée. Enfin, ça reste payé, mais c'est pas non plus des super salaires. Et puis même après, quoi, c'est pas là où on a les meilleurs salaires. Surtout quand on compare avec des personnes qui sont en industrie, en ingénierie. En tout cas, dans ton domaine, je pense que les salaires sont beaucoup plus bas, si je m'avance pas.
Oui, tout à fait, oui, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que l'aspect thèse aussi ouais, développe pas une confiance en soi, mais une notion de ben, après la thèse, j'avais le sentiment, peut-être à tort, peut-être à raison, je sais pas, de quelle que soit la problématique technique, en fait, je suis capable de l'analyser et de tirer certaines conclusions, d'identifier des lignes de recherche. Et des lignes d'exploration pour apporter une réponse à cette problématique technique, de prendre en main, quel que soit l'outil à utiliser, quelle que soit la technologie ou les ressources explorées. Je pense que la thèse apporte cette notion-là, de se dire, bon, en fait, très bien, j'ai développé vraiment des compétences pour pouvoir analyser une problématique technique, quelle qu'elle soit, et je peux réutiliser toutes ces compétences-là pour aller travailler sur une problématique A, le lendemain une problématique B, et m'adapter à tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en sortie de thèse, pour le coup.
Et ça me permet de rebondir. C'est donc là, tu es actuellement en post-doctorat après ta thèse. Est-ce que c'est aussi une des raisons de pourquoi tu as décidé de faire un post-doctorat?
La raison pour faire un post-doctorat, moi, ça a été vraiment de. Donc, j'ai durant mon sujet de thèse, je me suis particulièrement concentré sur l'apprentissage profond et particulièrement un type de réseau de neurones artificiels. Et je souhaitais avoir l'opportunité déjà de continuer dans la recherche publique pour ce qu'elle apporte en avantage, même s'il y a aussi certains inconvénients, ça c'est sûr. Mais je souhaitais aussi développer encore mes compétences en IA, alors, pas forcément développer mes compétences, mais élargir mes compétences en IA et travailler sur un autre type d'algorithme d'intelligence artificielle. Donc c'est ce que je fais actuellement où je travaille sur donc des processus gaussiens basés sur de l'optimisation bayésienne. Donc c'est un nom peut-être un peu barbare, c'est des statistiques et des mathématiques, on va dire, qui pour le coup sont connues et utilisées depuis assez longtemps, bien plus longtemps que ce qu'on peut imaginer, je pense, puisque vu que maintenant ça a l'étiquette IA, on peut penser que c'est assez récent, mais pas tant que ça. Et particulièrement, j'applique cet algorithme à la neuroscience, donc qui est pour le coup assez nouveau pour moi.
Et donc là, tu es parti au Canada pour faire ce postdoc. Et là, quel a été ce choix? Est-ce que c'est parce que tu as trouvé ton sujet et donc tu es parti au Canada, ou est-ce que c'est parce que tu voulais partir au Canada, tu as cherché des projets dans ton domaine?
Alors en fait, l'intelligence artificielle, il y a une forte concentration d'activités d'intelligence artificielle à Montréal, qui a été entre autres, enfin qui est entre autres due à l'activité d'un chercheur qui s'appelle Joshua Benjo, qui est prix Turing. Donc prix Turing, c'est l'équivalent, donc il y a les prix Nobel par exemple en physique, la médaille Fields en mathématiques, il y a le prix Turing en informatique. Et donc c'est un chercheur en fait qui a vraiment poussé l'activité de l'intelligence artificielle à Montréal. Et donc il y a un peu un concentré d'activités industrielles et académiques au niveau de l'intelligence artificielle ici. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité y venir pour en faire partie, développer mon réseau, développer mes compétences, rencontrer des chercheurs très compétents et très passionnants. Donc ça c'était une raison. Et puis c'est vrai que je dois avouer que Montréal est quand même une ville très agréable, donc c'est pas, j'y suis pas allé à reculons non plus.
C'est vrai qu'elle a l'air sympa. Et donc du coup, tout à l'heure, pour rebondir sur tout ça, donc là, tu es parti à Montréal parce que c'était un peu le gros centre de l'IA. Mais tout à l'heure, tu disais que tu avais plus un côté, maintenant, tu avais retrouvé un peu le côté médical. Quel est ton sujet un peu plus en détail, si tu arriverais à le vulgariser?
Ah oui, mon sujet donc de postdoc, donc j'ai fait plus postdoc à Polytechnique Montréal et également au MILA. Donc le MILA, c'est l'Institut d'intelligence artificielle du Québec. Donc Polytechnique Montréal est une école donc de sciences de l'ingénieur, on va dire, pour faire court à l'Université de Montréal. Je suis donc dans un laboratoire qui mélange l'aspect computationnel et expérimental. Donc ce que j'appelle computationnel, c'est vraiment le développement algorithmique et mathématique. Et l'aspect expérimental, pour le coup, ça sera du travail de neurosciences sur les animaux. Dans mon équipe, il y a vraiment des chercheurs. Moi, je travaille pas avec les animaux. J'ai pas développé de compétences pour ça. Mais il y a vraiment des chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, des stagiaires. Il y a vraiment une équipe donc expérimentale qui travaille sur les aspects du système moteur avec donc la partie par exemple stimulation au niveau du cerveau, stimulation au niveau de la moelle épinière. Donc ça, c'est un peu pour donner le contexte de l'équipe. Et donc de manière générale, l'objectif principal de cette équipe de recherche est de faire de la neurostimulation. Donc on va venir stimuler des parties du système nerveux au bon endroit, au bon moment, en fonction du sujet, pour pouvoir améliorer la neuroplasticité, par exemple, et réhabiliter les personnes qui ont des paralysies du bras ou de la main. On peut également appliquer cette technologie-là à limiter, très fortement réduire, les tremblements liés à la maladie de Parkinson. Donc c'est également une application. Et donc moi, au sein de cette équipe, en fait, donc je travaille plus sur l'aspect computationnel, naturellement. Et mon travail est de venir développer un algorithme donc qui s'appelle GPBO, pour les processus gaussiens basés sur l'optimisation bayésienne. Donc c'est un type d'algorithme qui est bien adapté à l'application au niveau de la neurostimulation. Et donc je dois trouver une solution pour pouvoir exécuter cet algorithme dans un espace de solution très large. Ce que j'entends par espace de solution très large, c'est-à-dire dans la neurostimulation, on peut avoir plusieurs, voire de très nombreux paramètres sur lesquels on peut jouer. Donc par exemple, ça va être la localisation de la stimulation, dans quelle partie du cerveau exactement, au niveau du cortex moteur, on va stimuler. En fonction des individus, en fait, la zone optimale va changer. Il y a également l'amplitude de la stimulation, la fréquence de la stimulation, et puis au fil du temps, la neuroplasticité, donc la récupération, par exemple, du cerveau, va faire que ces paramètres optimaux-là peuvent changer, en fait. Donc, il faut que l'algorithme puisse trouver ça rapidement, efficacement, et s'adapter au cours du temps. Donc, sachant qu'actuellement, ce sont des traitements qui peuvent être déployés, enfin, qui sont déployés au niveau de la chirurgie. Mais cette optimisation des paramètres est faite par un chirurgien, par un spécialiste. Donc, c'est quelque chose qui est fait manuellement, qui est difficilement adaptable à la diversité de paramètres qu'on peut retrouver chez les patients, et qui est aussi difficilement adaptable dans le temps. Donc l'idée, ça serait vraiment d'aider les spécialistes avec un algorithme qui permettrait de trouver les paramètres optimaux beaucoup plus efficacement, en fait.
Ok. Et bah, c'est super intéressant. Si, bah, en tout cas pour moi, pareil, j'espère que c'est clair aussi pour ceux qui nous écoutent. Bon, sinon, pareil, hein, ils peuvent toujours venir me poser ou te poser des questions s'ils sont aussi intéressés sur le sujet par la suite. Et du coup, qu'est-ce qui diffère au niveau de ton quotidien? Et pour rebondir un peu sur ce qu'on parlait tout à l'heure, de ton quotidien, de tes missions, qu'est-ce qui diffère une fois qu'on est en postdoc par rapport à une thèse? Enfin, en tout cas, dans ton cas.
Alors, dans mon cas, donc déjà, il y a la nature de la recherche au Canada. C'est un peu...
Oui, en plus, c'est vrai que...
Ouais, le fait de faire de la recherche au Canada est un peu différent de la recherche en France. Donc, au niveau du quotidien, déjà, il y a une différence au niveau du fonctionnement des laboratoires. En France, par exemple, on va avoir à Sorbonne Université plusieurs laboratoires. Donc, c'est vraiment des... On peut dire presque un bâtiment. Ce bâtiment-là, ça va être le laboratoire d'informatique. Et dans ce bâtiment, on va avoir plusieurs équipes de recherche. Et chaque équipe de recherche est composée de professeurs, de maîtres de conférences, de chercheurs. Et voilà, chaque chercheur va avoir ses doctorants, ses stagiaires. mais tout le monde fait un peu partie de l'aspect laboratoire qui est dirigé par le directeur du laboratoire.
Ouais.
Ici au Canada, alors c'est ça, vraiment...
Pardon, je me permets de rebondir, parce qu'effectivement, ça, c'est un sujet que j'ai abordé dans un épisode précédent avec un directeur de laboratoire. Donc, je renvoie, si c'est quelque chose que là, c'est pour ça que je rentre volontairement pas dans les détails de, des fonctionnements entre les pays, parce que c'est aussi un sujet que je voudrais aborder prochainement. Mais c'est quelque chose que, dans lequel on a discuté de comment ça se passait la recherche dans le laboratoire et que, d'un point de vue d'un directeur de laboratoire, dans l'épisode... Alors là, actuellement, je sais pas encore ça sera lequel, ce sera sûrement l'épisode 3. Donc voilà, je renvoie pour ceux qui seraient vachement intéressés, parce que là, volontairement, par manque de temps, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais effectivement, c'est un sujet qui est abordé. Et excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, mais effectivement, ouais, y a une grosse différence, parce que c'est aussi une différence qu'il y a avec la Suède, je pense que c'est à peu près comme au Canada, et donc effectivement, je te laisse continuer.
je pense que ça va être la même chose en Suède, où en fait, un chercheur, un professeur et un peu une mini-entreprise en soi. Donc ça va être le laboratoire de tel professeur et ce professeur-là va recruter ses doctorants, ses post-doctorants, ses stagiaires. Donc ça, c'est une petite subtilité. Alors dans le quotidien, ça n'impacte pas énormément, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Ensuite, au niveau de la nature du travail, je dirais peut-être qu'on attend d'un post-doc qu'il soit un peu plus indépendant sur son sujet de recherche que on peut l'être, par exemple, en début de thèse. Mais ce qui est normal, puisqu'en début de thèse, on débute dans la recherche presque. Donc là, on attend quand même d'un post-doc qui s'investisse...
Plus autonome, plus rapidement.
Voilà, plus autonome, s'adapter... plus efficacement, on va dire, et puis aussi pouvoir pousser l'analyse scientifique plus en profondeur que peut le faire un doctorant en cours de thèse ou au début de thèse, par exemple un stagiaire de master 2 en recherche. Donc on est docteur et on attend de nous qu'on fasse un travail de docteur et de chercheur. Après ça, c'est pas non plus une immense difficulté, quelque chose d'insurmontable qui change complètement la nature du travail. Mais il y a quand même cette petite notion-là. Et puis,
Je pense que ça arrive aussi un peu naturellement. Comme tu dis, quand tu arrives en début de doctorat, c'est aussi nouveau, tu apprends. Mais en fin de doctorat, ça fait 3 ans que tu travailles dessus et tu es formé aussi pour ça. Et je sais pas pour toi, mais moi, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur quand je me dis, là, je vais commencer un nouveau post-doc, un nouveau projet. Donc moi, j'ai aussi un petit peu changé mon niveau d'études, mon domaine d'études. Et donc ça me stressait un peu de, est-ce que je vais être capable de commencer un nouveau domaine, un nouveau projet, de refaire des recherches dans un... Donc là, maintenant, je suis dans le cancer et c'était quelque chose avec lequel je ne travaillais pas du tout. Et en fait, ça a été assez naturel, vu qu'on est formé pour ça, ça a été assez naturel de prendre les choses en main et tout de suite, t'es dans le bain et tu commences ton domaine d'études assez facilement, quoi.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et même, tu prends plaisir, en fait, à avoir, du coup, cette autonomie et cette capacité à y aller, en fait. Il y a aussi, cet aspect-là où on attend de toi que tu prennes en main des projets, parfois plusieurs projets à la fois, et en même temps, tu as les capacités pour le faire, donc il faut mettre ces capacités-là en pratique et il faut y aller. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. J'ajouterais, au final, peut-être que c'est la même chose aussi en Suède pour toi. En tout cas, moi, au Canada, donc, comme je l'ai dit précédemment, je suis dans les demandes de financement. Donc, il y a l'aspect d'aller chercher des financements que moi, je n'avais pas du tout quand je faisais ma thèse en France. Que j'ai eu un petit peu, mais qui était beaucoup plus pris en compte par mon directeur de thèse à l'époque, puisque c'était lui qui était un peu le porte-étendard du projet. Tandis que là, cette fois-ci, c'est vraiment monter un dossier... pour moi, ou en tout cas monter
pour notre salaire
de recherche, pour notre salaire, tout à fait.
Ouais. Je trouve ça important, on le pense pas forcément, mais c'est important de le dire qu'effectivement, quand on demande, on fait des recherches de financement, en fait, c'est aussi pour qu'on puisse être payé et continuer nos recherches, quoi, tout simplement.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, il y a un peu cet aspect-là de... pour le le résumer énormément. Si on a des financements, on peut continuer la recherche. Si on n'a pas de financement, on peut pas continuer la recherche.
C'est ça.
Il y a des petites subtilités hein, en fonction oui. des labos, etc. Mais c'est un peu résumé un peu ça. Donc là, il y a cette nouvelle tâche que je n'avais pas trop fait avant, qui est très intéressante puisque ça permet vraiment de réfléchir et de conceptualiser vraiment des contextes d'abord, des problématiques de recherche et des solutions qu'on souhaite apporter. Donc c'est ouais. un exercice à part entière qui est complètement différent de ce qu'on peut faire dans la thèse. Et c'est quelque chose que j'apprécie aussi, qui peut être un peu pas stressant, mais qui peut...
Si, c'est vrai, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que je rebondis, parce que c'est vrai que ça a été mon cas aussi, là. Donc moi, là, au mois de septembre, justement, j'ai fait quelques demandes de financement. C'est aussi une des raisons de pourquoi la saison 2 n'est pas sortie très très tôt, parce que j'avais pas mal de demandes et je me suis dit, bon, bah, j'ai privilégié quand même mon travail. Donc, ouais, c'est vrai que. Mais moi, c'est quelque chose qui me stressait parce que c'était pas. Moi, la rédaction, c'est vraiment quelque chose avec laquelle je suis pas à l'aise d'écrire, bah, même de parler. Enfin, même si là, je fais le podcast, bon, c'est pas moi qui parle la plupart du temps, mais c'est vrai que c'est pas formuler des phrases, c'est vraiment pas quelque chose avec laquelle je suis à l'aise. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me stressait. Puis au final, comme tu dis, c'est assez plaisant parce que c'est ton domaine de recherche, d'essayer de rechercher, d'essayer de montrer jusqu'où tu vas aller dans ton projet, pourquoi tu le fais, de démontrer tout ça. Et c'est vrai que c'est des tâches qu'on ne faisait pas forcément. Certains peuvent le faire en thèse, mais ce n'est pas forcément une des missions principales qu'on a. Souvent, bah, quand on commence notre projet de recherche, le financement est déjà là, ou alors c'est notre directeur d'études qui fait la demande pour nous, parce que c'est pas... Même si c'est notre projet, c'est le directeur de recherche qui fait la demande de financement. Donc ouais.
En France, en tout cas,
c'est
quelque chose en France. Là, par exemple, dans mon laboratoire au Canada, il y a des doctorants et même des étudiants de maîtrise, donc il y a un peu l'équivalent du master en France, qui font des demandes de financement pour eux-mêmes. Okay. Donc, c'est quelque chose que eux font déjà avant.
Ouais.
En France, en tout
c'est
cas,
vrai que
quelque chose qu'on ne fait pas trop.
C'est vrai, aux Pays-Bas, je crois que les étudiants, donc moi j'avais travaillé aux Pays-Bas et c'est pareil, les doctorants faisaient eux-mêmes leurs demandes. En Suède, c'est un peu comme en France, j'ai l'impression que, alors à vérifier, mais en tout cas dans les laboratoires là, que j'ai côtoyés, les personnes que j'ai côtoyées, c'est un peu comme en France. C'est pas forcément dans les missions des doctorants et c'est les professeurs qui, donc nous on appelle ça des PI, des professeurs investigateurs, et c'est eux qui font souvent les demandes. Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça change en fonction du pays et où est-ce que l'on est. Mais c'est important de souligner, effectivement, les demandes de financement, qui est toujours un point important dans la recherche, et c'est aussi une part importante de notre quotidien. On n'est pas que toujours là à s'amuser sur nos expériences et à faire de la recherche. Donc toi, à t'amuser avec des datas, et moi, à faire des expériences au labo, c'est pas la mission, les missions non plus principales.
Oui. Tout à fait, oui, il y a cet aspect-là. Et oui, j'ajouterais, c'est un exercice intéressant également parce que ça permet de faire un bilan de tout ce qu'on a fait dans notre carrière, certes courte, mais on a quand même fait au final beaucoup de choses. Donc ça permet vraiment de mettre en avant tout ce qu'on a pu réaliser. C'est un peu, il y a cet aspect-là qui est valorisant également parce qu'en fait, parfois, on oublie un peu tout ce qu'on a pu faire, accomplir, explorer. On se dit, tiens, en fait, ça va, je peux remplir plusieurs feuilles, quoi.
C'est vrai. Oui, parce que c'est vrai qu'une demande de financement, c'est vendre un peu son projet, montrer pourquoi notre projet est important et en quoi il sera utile à la société. Mais c'est aussi se vendre soi-même, parce que c'est aussi montrer que nous, on est important dans la recherche et en quoi on va apporter, en quoi on sera utile dans ce projet de recherche, quoi. C'est pas juste une demande de financement sur le projet. C'est aussi accompagner du chercheur. Donc,
oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment en quoi... moi, je suis le meilleur candidat pour réaliser ce projet. En quoi le laboratoire qui m'accueille et moi allons avoir une excellente synergie pour réaliser et mener à bien ce projet. En quoi l'équipe qui va m'encadrer est compétente pour m'amener vers des pistes qui vont être concluantes. Et comme tu l'as dit, en quoi le projet va impacter positivement la société ou répondre à une problématique de société. Donc, c'est pas seulement on va faire quelque chose, s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est effectivement, faut montrer aussi la cohérence de tout ça. C'est pas juste, regardez, j'ai ce projet d'études, c'est super utile. Il faut absolument donner de l'argent. Non, faut aussi montrer toute une cohésion et montrer que c'est réalisable aussi et que c'est possible, quoi. Et donc, pour continuer, est-ce que tu aurais là tout de suite, tu pourrais me citer des points positifs et des points négatifs à faire un post-doctorat? Alors, je sais que c'est encore un peu tôt, tu l'as débuté il n'y a pas si longtemps que ça.
Alors, des points, pour commencer par un point négatif, peut-être qui me vient à l'esprit rapidement, c'est l'aspect de, au niveau de sa carrière, en fait, le fait de faire une thèse après une école d'ingénieur ou un master, ça fait qu'on termine en général la thèse autour de 26-28 ans, parfois plus tard, parfois plus tôt, en fonction du parcours de chacun. Moi, dans mon cas, au vu de mon parcours, j'ai soutenu ma thèse à 28 ans. Et donc, le fait de faire un post-doc, on pourrait se dire, bon, je vais repartir encore pour 2, 3, 4 ans dans la recherche publique, avec un aspect, ouais. Je n'irai pas jusqu'à dire précarité, parce que le mot est un peu fort, mais comme tu l'as dit, où on a aussi une possibilité d'aller travailler dans l'industrie, où certains aspects sont plus simples. Premièrement, le niveau de vie n'est pas le même. Certaines problématiques ne sont pas les mêmes. On parlait des financements tout à l'heure. Lorsqu'on est engagé dans une entreprise en CDI en France, on n'a pas à se poser la question de comment je dois trouver des financements pour mon salaire.
Oui. Tous les 6 mois, on ne fait pas une demande de financement en se disant maintenant, il faut que je me prolonge. Et c'est à nous-mêmes de nous prolonger, on va dire, même si bien sûr on a le soutien du laboratoire et de nos professeurs, mais c'est nous-mêmes qui cherchons des financements pour nous prolonger. C'est pas, on ne va pas aller voir un boss en disant j'aimerais avoir un an de plus de CDD. Non, en fait, ils n'ont pas l'argent, c'est à nous d'aller chercher l'argent. C'est grossièrement dit. Hein.
Mais il y a en effet cet aspect-là qui, honnêtement, peut peser dans la balance, puisque après, mon sortie de thèse où, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, le salaire n'est pas énorme, surtout lorsqu'on fait une thèse dans les grandes villes, les grands centres-villes, où le niveau de vie est un peu haut.
Donc, ça peut oui, parce que je rebondis là-dessus, parce que je pense que dans n'importe quel domaine, alors toi, tu étais à Paris, moi, j'étais à Poitiers, c'est pas du tout le même niveau de vie, on va dire financièrement, c'est pas du tout les mêmes prix, mais je crois que dans n'importe quel autre domaine, les salaires sont généralement plus élevés quand même aussi à Paris, même si ça reste, les loyers sont aussi chers, mais au niveau de la thèse, en fait, vu que c'est national, en fait, on était payé pareil. Donc, en fait, indirectement, moi, j'avais quand même un meilleur niveau de vie, dans le sens où, moi, mon loyer était quand même beaucoup moins cher. Je parle d'un point de vue financièrement. Effectivement, quand t'es à Paris ou dans les grandes villes, les salaires doctoraux n'augmentent pas, quoi. Et du coup, effectivement, je pense que tu peux arriver peut-être parfois dans une précarité. Pas autant, effectivement, c'est peut-être un mot fort, mais effectivement, les salaires sont pas très élevés quand t'es en grande ville.
Oui, dans l'aspect industrie, les salaires sont un peu plus élevés à Paris qu'en province pour justement un peu compenser ce niveau de vie élevé. Mais au niveau de la thèse, tout est national, donc oui. Il n'y a aucune différence. Donc après, c'est vrai de se dire, bon, je repars dans un postdoc, ça peut freiner un peu, mais il faut noter que certains postdocs peuvent être très bien payés, même en France. Moi, je sais que dans mon laboratoire, alors j'ai entendu dire, j'ai pas vérifié la feuille de paie de tous les postdocs, mais dans mon laboratoire en France, il y avait certains postdocs qui étaient payés autour de 2 800-3 200 euros par mois, ce qui est tout à fait correct.
Aussi, ouais.
Quand on compare en fait le salaire d'un ingénieur ou d'un master avec 3-4 ans d'expérience et ce salaire-là en postdoctorat, sur l'aspect financier, on s'y retrouve. Ça, c'est un premier point négatif et je dirais pas que je verrai d'autres. Enfin, je vois pas d'autres aspects négatifs actuels.
C'est déjà pas mal.
Ça viendra. Oui, c'est. Oui. C'est un peu cet aspect-là de se dire bon, je repars encore peut-être dans une mise en danger ou en tout cas, je vais ressortir de ma zone de confort alors qu'on venait à peine d'y rentrer. Hein, quand on finit une thèse, on est tellement allé sur notre sujet qu'on est quand même dans une certaine zone de confort. Et à peine on s'y installe, hop, on ressort directement. Donc ça, c'était un aspect un peu compliqué. Mais ça, pour continuer là sur cet aspect zone de confort, c'est aussi pour moi un avantage le fait de se dire bon ben, je m'y arrête pas trop dans cette zone de confort parce que j'ai envie encore de découvrir d'autres choses, j'ai envie d'apprendre d'autres choses et donc moi ça m'a permis déjà de travailler en dehors de la France. Donc toi c'est pareil et moi c'est une expérience que je souhaitais avoir de travailler encore dans un environnement qui est très international, même si les laboratoires de recherche en France sont aussi en général très internationaux.
Ouais.
Là, mon environnement est international, donc ça me permet aussi de développer d'autres compétences techniques. Ça, c'était quelque chose que je souhaitais faire. Donc ça, c'est voilà, c'est quelque chose que j'apprécie, qui pour moi est un avantage dans le postdoc.
Ok.
Voilà, je
Non,
suis pas
ça.
sûr si j'en vois
Bon, non,
d'autres.
mais c'est. Non, mais c'est vrai que. Bah, après, on en a déjà aussi pas mal dit, là, pendant 1 heure. On a aussi pas mal parlé des avantages du fait de faire de la recherche par rapport à ça. Donc, on a déjà pas mal parlé de pas mal de choses. Mais voilà, effectivement, c'était intéressant de savoir, là, tout de suite, à froid. Parce que c'est vrai que c'est une question que t'avais pas forcément. Que je t'avais pas dit demandé de préparer. Donc, à froid, de
Oui.
savoir instinctivement quels sont les points positifs et négatifs que tu dirais.
Puis comme tu as dit, c'est vrai que c'est assez récent le postdoc. Moi, j'ai soutenu ma thèse en mi-mai 2023 et puis j'ai commencé mon postdoc 1er juillet 2023. Donc là, ça fait 3-4
Oui.
mois que je suis en postdoc, donc j'ai pas vraiment encore eu le temps de tout
Oui.
saisir en termes d'avantages et d'inconvénients. Et après, c'est vrai que moi, pour moi, c'est aussi un objectif de développer des compétences assez pointues et d'élargir
OK.
encore mon spectre de compétences pour ensuite pouvoir accéder à certains domaines ou à certains postes qui auraient pu être peut-être un peu plus difficiles d'accès au premier abord. Mais ça, c'est un projet peut-être plus personnel.
Ouais, mais non, mais c'est toujours aussi intéressant, bien sûr que c'est aussi intéressant de savoir les choix, nos choix de façon de vie et de carrière sont aussi menés par nos choix personnels, donc c'est intéressant. Et ben écoute, je te propose de quand même passer à la suite et de passer au petit jeu, aux questions oui/non. La première question est, même si on a un petit peu mentionné, c'est est-il difficile de trouver des postes fixes après une thèse dans ton domaine?
Non, je ne pense pas que ce soit en académique ou en industriel. Le domaine de l'intelligence artificielle, de l'électronique et de l'intelligence artificielle avec l'électronique, je pense que c'est un domaine qui a vraiment le vent en poupe actuellement. Je pense que c'est pas très difficile, ou en tout cas c'est moins difficile de trouver dans ce domaine-là que dans un domaine peut-être un peu plus fermé comme la chimie, ou peut-être la biologie, je ne suis pas entièrement conscient de la difficulté, mais je pense que c'est y a des opportunités ouais, dans le public et le privé, l'académie, l'industriel.
Dans la recherche? Ou de manière, enfin, ou pas forcément dans la recherche.
Dans la
Là, tu.
recherche et pas dans la recherche. On peut
Ok.
vraiment décider de partir pour faire moins de recherche, voire plus du tout, ou rester dans la recherche également.
Ok. Bon, c'est intéressant de savoir s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est des domaines qui intéressent, que ça peut être aussi un frein. Certaines personnes n'ont pas forcément envie de partir dans les domaines et galérer à trouver des postes. Et, enfin, en tout cas, nous, c'est le cas en biologie parce que c'est compliqué des fois de trouver des postes fixes et je sais que ça peut freiner certaines personnes. Donc, je me demandais, toi, dans ton domaine, parce que comme tu dis, même si en soi, on fait à peu près sur le papier la même chose, on a les mêmes postes, ça reste deux domaines complètement différents et des fois, les fonctionnements et les postes et tout ça sont aussi différents. Donc,
Oui, tout à fait. Ouais.
voilà.
En fait, ça varie beaucoup en fonction des besoins actuels de la société, du marché du travail. Mais j'ai des exemples dans mon laboratoire de enfin, doctorants qui étaient diplômés, docteurs qui sont partis. Par exemple, dans mon laboratoire en France, j'ai des anciens collègues doctorants qui, après leur thèse, sont partis en postdoc dans la recherche publique, qui sont également partis dans la recherche privée, donc en industrie, qui sont partis vraiment dans l'industrie, mais qui ont arrêté un peu de faire de la recherche. Donc, il y a vraiment tous les exemples et en fonction des souhaits de chacun, je pense que tous les chemins sont possibles dans mon domaine en tout cas.
Ok, non, ça, ouais, c'est intéressant à savoir en tout cas. Et du coup, donc tu disais que pendant ton doctorat, tu faisais aussi beaucoup, tu travaillais beaucoup, mine de rien, tu parlais des horaires des fois 8, 9h, 19h, 8h, 20h. Alors ça peut être classique pour, même en tant que doctorant, effectivement, ça peut être pas quotidien, mais assez courant. Mais ça peut être aussi beaucoup d'horaires pour certaines personnes. Est-ce que là, actuellement, tu arrives à avoir un bon équilibre vie perso et vie pro?
Oui, j'y arrive parce que je me l'impose. Je n'ai pas souhaité continuer dans le rythme effréné du doctorat parce qu'en fait, ça m'avait fatigué psychologiquement et physiquement au bout de 3 ans, 3 ans et demi. Après, de nouveau, c'est vrai que ça peut paraître, les horaires de thèse, ça peut paraître très conséquent pour certains et normal pour d'autres. Mais voilà, outre les horaires de la semaine, mais aussi très peu de week-ends, très peu de vacances, ces aspects-là. Et donc là, pour le postdoc, j'ai souhaité vraiment rééquilibrer cet aspect-là de vie personnelle et vie professionnelle. Ce que j'arrive à faire beaucoup mieux en postdoctorat, okay. cet équilibre, de trouver cet équilibre, et ce que j'espère okay. maintenir le plus longtemps possible.
Ok. Ouais, c'est aussi intéressant de savoir voilà, que ça dure. Enfin, c'est pas forcément pour les personnes qui sont actuellement en thèse aussi, peut-être qu'ils se disent je ne veux plus ça. Voilà, effectivement, moi aussi, si on m'aurait posé la question, j'aurais dit exactement la même chose que toi. Effectivement, en thèse, je bossais beaucoup, je m'étais beaucoup fatiguée. Et effectivement, maintenant, je m'impose aussi un bon rythme et je trouve que c'est plus facile. Alors, on verra aussi pareil. Moi aussi, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, je rejoins ton avis, donc peut-être ça peut aussi en encourager certains.
J'ajouterais, c'est vraiment personnel le fait de trouver cet équilibre-là. Et oui. vraiment, il y a chacun, que ce soit en thèse ou en postdoc ou dans sa carrière plus tard. Ouais.
Oui, parce
moi,
que.
Si je souhaite actuellement dans mon postdoc travailler de manière effrénée pour pouvoir énormément publier, énormément avancer dans ma recherche, me faire connaître. Je pourrais essayer, je pourrais le faire, mais j'essaye de le faire tout en ayant cet équilibre-là.
Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Effectivement, c'est un choix personnel. Si on veut, on peut travailler beaucoup plus, mais on peut aussi s'imposer un bon rythme. C'est tout à fait possible dans tous les cas. Et donc là, tu viens d'arriver, comme tu dis, tu viens d'arriver au Canada, et je me demandais, est-ce que tu apprécies, en dehors du domaine de la recherche, parce que c'est aussi important, est-ce que tu apprécies ta nouvelle vie canadienne ?
Oui, j'apprécie ma nouvelle vie canadienne. Je pense que c'est aussi lié au fait que la thèse est terminée, donc ça joue quand même, je pense positivement sur cet aspect-là. Après, il y a l'aspect vraiment découverte. Alors, même si le Canada, ça reste une culture occidentale, qui plus est, à Montréal, au Québec, où il y a quand même énormément de Français, ou en tout cas, ça parle français, il y a une culture aussi française qui est assez présente. Donc, c'est pas un dépaysement énorme, comme si j'étais parti dans des pays asiatiques, où là, la culture peut être différente, où je ne parle pas la ouais. langue. Tandis qu'ici, je parle français et anglais, et c'est des langues que l'on retrouve quasiment partout ici, donc c'est assez simple. Mais il y a quand même cet aspect-là ouais. découverte, que ce soit la découverte du pays, la découverte de la culture aussi nord-américaine. Donc c'est quelque chose que j'apprécie de manière générale à Montréal. Et comme je le disais, la ville a très bonne réputation et la réputation est justifiée. C'est très sympathique.
Ok. Ok, bah voilà, c'est aussi intéressant, ça donne aussi envie de venir, donc. Et ça me permet de rebondir sur la dernière question, hein, oui-non, parce que je me posais la question, donc moi actuellement, étant en Suède, je dois parler couramment anglais, je parle tous les jours en anglais, et sauf que ça peut aussi en freiner certains de partir à l'étranger, et ça peut être aussi un des choix de pourquoi on va partir au Québec, parce que comme tu dis, là c'est français, mais est-ce que tu dois parler couramment en anglais, est-ce que tous les jours tu as en tout cas la possibilité où tu dois parler en anglais ?
Alors je parle français et anglais tous les jours à n'importe quel moment de la journée parce qu'en fait j'ai des collègues de laboratoire qui sont francophones et d'autres non. Donc quand on est tous okay. ensemble, on parle tous anglais, puis après si je suis qu'avec des collègues français ou québécois, la plupart du temps on parle en français. Après ce qu'il faut savoir au Québec, alors, je ne suis pas particulièrement au courant de toutes les règles et les lois, mais par exemple je sais qu'à l'université de Montréal et à Polytechnique Montréal aussi, mais je pense que c'est un peu les mêmes règles sur ça. Une personne oui, est autorisée à mener donc une réunion ou un processus de recrutement en français s'il le souhaite. Donc mm-hmm. éventuellement pour les Français qui sont un peu freinés par la langue anglaise peuvent trouver une solution en venant ici. Après j'ajouterais que faire de la recherche sans anglais c'est quand même quelque chose de très difficile je pense. Puisque dans la majorité des conférences, publications, processus de recherche, quasiment tout est en anglais en fait.
Ouais.
Donc oui, sur l'aspect recherche sans l'anglais, ça j'ai du mal à le concevoir. Okay. Mais par contre, sur l'aspect travail de manière générale au Québec, on peut faire, je pense, tout en français sans trop de difficultés, je pense.
Ok. Ah bah c'est voilà, toujours intéressant de savoir, ça peut en intéresser certains. Et donc avant de clôturer ce podcast, je me demandais du coup quels sont tes objectifs pour plus tard?
Mes objectifs professionnels après le post-doctorat?
Oui.
Eh bien, d'abord au niveau du post-doctorat, c'est une bonne question. Non, j'en ai quelques-uns au niveau du post-doctorat. Enfin, j'ai des objectifs, on va dire, à court terme et moyen long terme. Les objectifs à court terme, pour moi, c'est vraiment sur la période du post-doctorat. Donc, ça, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est vraiment élargir mes compétences, essayer de publier dans des conférences ou des journaux qui ont un fort impact dans mon domaine. Sur l'objectif plus à long terme, je souhaiterais vraiment travailler sur en collaboration étroite entre la recherche académique et l'industrie pour pouvoir en fait amener tous les travaux de recherche, enfin tous les travaux, amener la recherche vers un produit industriel commercialisé que les gens peuvent utiliser. Il y a énormément de recherches qui restent dans les tiroirs des universités. C'est la partie transfert technologique est quelque chose de très complexe à faire. Il y a beaucoup de processus qui s'arrêtent en cours de transfert technologique parce que la difficulté est trop grande. Et donc, j'aimerais vraiment développer des compétences très fortes, que ce soit sur la partie académique et industrielle, pour pouvoir assurer en fait ce transfert technologique et essayer d'adapter autant que possible la recherche sur des produits qui pourront avoir un impact en fait que les gens pourront utiliser ou les industries pourront utiliser.
Ok. Et j'ai une petite question, un peu la signature de la saison 2. Que signifie pour toi être un bon scientifique?
Ouh, alors ça, c'est une question à débat.
C'est ça, c'est un peu la question philosophique, parce que bon, je trouve que dans ce podcast, c'est de la recherche, et donc on est très cartésien, on est très concret, parce que bah, on fait de la recherche, mais je trouve aussi intéressant de voir un point de vue. Alors là, c'est totalement un point de vue personnel, hein. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour toi, en tout cas, ton point de vue à toi, quelles sont les compétences hein, pour être un bon scientifique?
Bah, moi, je dirais que les compétences, ce serait les compétences... première à avoir pour être un bon scientifique, c'est l'esprit d'analyse, pas seulement l'analyse mathématique ou quoi que ce soit pour résoudre des algorithmes, etc., mais vraiment l'esprit d'analyse pour tirer des conclusions qui permettent à l'état de l'art d'avancer, en fait. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut faire des études qui sont concluantes positivement ou négativement, mais en fait, les études qui vont être... conclut de manière négative en disant, bon, en fait, voilà, c'est pas une piste à explorer, c'est pas une piste à continuer à explorer parce que, actuellement, on fait face à tel problème. Ça peut être un problème technologique, un problème scientifique. Le fait d'amener ça, en fait, à la communauté scientifique permet à tous les autres chercheurs de s'appuyer sur ces travaux-là, qu'ils soient conclus positivement ou non, et d'explorer d'autres pistes, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment un aspect important. Il y a cette question-là de dire que, qu'est-ce qu'un bon chercheur? C'est pas forcément quelqu'un qui va révolutionner le domaine dans sa vie. Parce qu'en fait, la personne qui va apporter quelque chose, par exemple sur les révolutions récentes qu'il y a eu au niveau de l'intelligence artificielle, les personnes qui ont fait ces travaux-là se sont appuyées sur des travaux précédents, qui eux-mêmes se sont appuyées sur des travaux précédents, etc. Et puis on peut remonter très très loin, en fait. Et donc, sans les conclusions négatives, sans les conclusions positives, on pourrait pas... développer ce qu'on développe actuellement. Et le fait d'être conscient de ça et d'apporter toutes les réponses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, enfin qu'elles soient concluantes ou non, je pense que c'est quelque chose d'important.
Ok. Voilà. C'est... Ouais, non, mais voilà. C'est intéressant parce que c'est la première fois que j'ai ce type de réponse. Et jusqu'à maintenant, j'avais être curieux, être autonome et tout ça. Donc là, c'est aussi intéressant d'avoir un autre aspect d'un scientifique, quoi. Donc, et pour finir, est-ce que tu aurais un scientifique à recommander ou une thématique que tu souhaiterais que j'aborde?
Un scientifique à recommander, au niveau de l'intelligence artificielle, je dirais, alors c'est peut-être deux scientifiques. Moi, je sais que j'ai pas le droit, tu m'as dit un, mais je vais rester sur un.
Non, moi, tu peux en dire deux, dix.
Non, je dirais vraiment cet aspect au niveau de l'IA. Yann LeCun et Yoshua Benjo, du coup, Donc ils ont travaillé énormément sur l'aspect apprentissage profond et avec Geoffrey Hinton aussi. Ils ont tous les trois aussi pris Turing sur leur avancée, qui ont un peu lancé ce mouvement-là d'intelligence artificielle depuis 2012. Et en fait, lorsqu'on regarde ce qu'ils ont fait, ils ont été confrontés vraiment à des problèmes technologiques et des problèmes aussi liés à la communauté scientifique au moment de leur recherche. Et ils ont apporté des réponses pertinentes. Ils ont réussi à avoir un impact très fort. Et actuellement, ils ont toujours un impact assez fort. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que, par exemple, Yann LeCun et Joshua Benjo, malgré le fait qu'ils aient travaillé ensemble dans la même direction, aujourd'hui s'opposent sur d'autres directions, sur la partie un peu éthique et contrôle de l'intelligence artificielle, où ils peuvent avoir un peu des avis divergents. Donc il y a plusieurs interviews qu'on peut retrouver assez facilement. Si on suit la page LinkedIn de Yann LeCun ou de Joshua Benjo, je pense qu'on peut retrouver ces interviews facilement. Où justement, on a deux scientifiques qui ont marqué leur domaine, qui ont travaillé dans la même direction et qui aujourd'hui s'opposent également. Je trouve ça intéressant.
Ok. Ah, c'est intéressant. Et puis c'est vrai que s'il y a des personnes là, qui sont vachement intéressées dans le domaine, parce qu'on n'a pas on n'est pas forcément rentré en profondeur dans le domaine de l'IA, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et ben, je veux bien que tu m'envoies les noms par message, et puis je les mettrai aussi dans la description. Comme ça, les personnes pourront aller chercher directement les domaines de LinkedIn. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui voudraient te contacter, qui auraient des questions que ce soit sur le postdoc, le doctorant ou même la vie au Canada, si jamais ils le peuvent, où est-ce qu'ils pourraient te contacter ?
Sur LinkedIn, Thomas Garbail. Je ne sais pas si tu pourras mettre mon profil quelque part.
Ouais. Je mettrai le lien
sur Facebook ou.
Ouais. Bon, je mettrai le lien LinkedIn. Je pense que les gens, en tout cas les étudiants, tu utiliseras peut-être plus LinkedIn que Facebook. Je pense que là, en tout cas, l'audience qui nous écoute est trop jeune peut-être pour Facebook.
J'ai pas de profil TikTok, désolé.
On commence à se faire vieux. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te souhaite aussi une bonne continuation. Et puis, bonne journée, parce que là, c'est le début de la journée pour toi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bonne continuation. Bonne continuation à toi et à mon postdoc.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette nouvelle saison vous plaît. Comme vous l'avez vu dans cet épisode, nous allons aborder des thématiques un peu plus larges de ce que j'ai pu faire jusque-là. J'espère en tout cas que ces épisodes vous aident dans votre parcours, si vous êtes étudiant, et que si vous êtes juste curieux de ce qu'il se passe dans la recherche, que cela vous intéresse fortement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à Basiologie sur Insta ou encore à Perrine Burderon sur LinkedIn pour ne pas rater les prochains épisodes, et je vous dis à très vite.